Yeah, okay, let's go.
Vous êtes sur Radio G. Et vous écoutez Entre les pages. Deuxième rendez-vous pour cette nouvelle édition de Entre les pages. Depuis le 11 septembre et cette mémorable première, nous avons travaillé ferme. Je le disais en introduction de la précédente émission, il nous fallait apprivoiser les micros pour ne rien vous cacher, vous révéler les mystères du studio. These fucking micros, en américain pour éviter de dire des gros mots, ils ruaient un peu comme des broncos sauvages et les potentiomètres de la table de mixage étaient comme pris par la danse de Saint-Guy. Maîtriserons-nous mieux ce nouvel opus ? Je croise les doigts. Chaque membre de l'équipe a revêtu son Stetson et chaussé ses Santiago poussiéreuses, prêt à affronter la tourmente de l'heure à venir. Je ne savais pas que le Far West se trouvait si proche de chez nous. Je vous l'avais annoncé, c'est à la rentrée littéraire en Anjou que cette émission sera consacrée. Enfin, la rentrée, à écouter les maisons d'édition, c'est un truc bien parisien. Je vais plutôt dire aux nouveautés qui sont publiées à partir de ce mois de septembre. Tenez-vous bien, j'ai répertorié pas moins de 28 publications touchant à tous les genres, de l'autobiographie, des livres pour le jeune public, de la BD, des livres d'histoire, des fictions, bref, de quoi satisfaire tous les goûts. Et devant cette pléthore de productions, on n'est pas loin quand même des 5000 pages cumulées, on ne peut manquer de se poser des questions. Cela est-il raisonnable ? Et comme il est de bon ton d'ironiser sur la rentrée médiatique et ses 124 nouveautés en septembre 2009, alors quid de celle de l'Anjou ? Et si en plus on considère que l'Anjou couvre le territoire du Maine-et-Loire, qu'il n'est pas un département exceptionnel et donc qu'il produit autant que les autres départements français, on arrive à un total national de près de 2500 publications. Étonnant, non ? Alors pour porter un regard sur ce paysage de l'Anjou, sur cette profusion il sera nécessaire de se munir de clés. Je vous en propose trois. Tout d'abord, la vision structuraliste. Qu'est-ce que nous dit cette production de l'état du territoire que l'on observe ? Une part importante de ces publications fait la part belle au récit de vie. Serait-ce autre chose, plus grand, que le simple besoin de témoigner de sa propre place ? Autre sujet, l'histoire, et plus particulièrement l'histoire locale, la micro-histoire. Et cela semble illustrer l'impérieuse nécessité de caractériser son chez-soi. Enfin, la fiction. Signe sans doute que la flamme de la création ne tremblote pas que dans la peinture, la musique ou la photo. Deuxième approche possible, la vision rilkienne, celle formulée dans sa première lettre à un jeune poète. Rainer Maria Rilke y écrivait sur la question de l'écriture « Demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire. Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse, si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un simple et fort « je dois », alors construisez votre vie selon la nécessité, selon cette nécessité. Et puis enfin, l'approche par le concept de l'éducation populaire, celui qui crée les conditions de l'épanouissement des pratiques amateurs, qui favorise le partage des savoirs, qui anime la réflexion autour de la notion d'exigence, qui permet à l'individu de sortir de sa pratique solitaire pour s'enrichir de l'expérience collective afin que son regard sur sa propre production fasse sens, pour lui-même et éventuellement pour les autres. Mais au-delà de cette approche socio-anthropologique, sur laquelle nous reviendrons nécessairement, pour aujourd'hui, ici, à Entre les pages, ni mépris, ni condescendance, simplement regarder, lire et rendre compte avec pour seule envie d'éveiller votre curiosité et de vous faire aller à la rencontre, comme nous le faisons, du territoire que vous habitez.
Il y avait pour seule musique d'ambiance scintillement des bougies, le silence. Des lumières fuient et commence la danse. Une flamme s'éteint et s'éveille nos sens. On sentait l'un l'autre, les battements des corps, les assourdissants coups du cœur lourd, sec et fort. Le chuchotement que nous nous faisions à l'oreille n'était plus que le chant du vent sous le soleil. Silence très pesant, alourdissant l'air, fut interrompu par le claquement des clips de sa robe qui, le long de son dos, s'agrippe. Ça nous semblait depuis un instant clair. Elle n'était plus tout comme moi habillée, que du tissu de soie noire, de l'obscurité.
Vous avez entendu François Marsin, vous êtes bien sur Radio G. Jeudi dernier, 19 septembre, la librairie Richer invitait le public pour lui présenter une sélection de nouveautés de la rentrée. Beaucoup de monde présent, assidu, prenant des notes, emporté par l'enthousiasme des membres de l'équipe. Une soirée quand même en marge des commentaires entendus depuis la fin du mois d'août dans les grands médias nationaux, y compris ceux qui revendiquent une certaine indépendance. Cet après-midi, nous vous proposons un parcours différent. Nous voulons vous montrer la très grande diversité de la production en Anjou, en faisant un point d'arrêt de temps en temps pour mieux éclairer certaines productions. Nous commencerons notre balade par le sud du département et la banlieue choletaise, plus précisément au Longeron, avec la maison d'édition Écrituriale, association des auteurs et éditeurs réunis. Elle est sous forme d'association loi 1901. Elle promeut l'entraide entre les auteurs. Pour les curieux, elle tient son festival le 27 octobre prochain au Longeron. Mais nous y reviendrons. Comme beaucoup de maisons généralistes, nous retrouvons récits de vie, témoignages, mais aussi histoires locales ou fictions. La maison semble avoir un vrai dynamisme si j'en observe la réactivité de ses auteurs. Deux livres paraissent en ce mois de septembre. « Née sous X », titre au féminin de Angélique d'Angélie. L'autrice est « Famille d'accueil ». Elle accueille des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. Elle a construit une fiction en racontant la vie d'un enfant des derniers mois de la grossesse à l'adoption. C'est un petit livre de 90 pages qui se lit très vite. C'est la vision d'une femme convaincue par le métier qu'elle a choisi. C'est écrit tout simplement, sans prétention de grande littérature, et l'émotion arrive à passer. Ce n'est pas moralisant et surtout, on ressent à sa lecture que Françoise Dolto n'est pas définitivement morte et que sa pensée est encore enseignée. Moi, je recommanderais ce livre aux adolescentes et aux adolescents. Il devrait aussi trouver une place dans les CDI de collège ou de lycée, et les infirmières ou les assistantes sociales des établissements, enfin, s'il en existe encore, peuvent disposer là d'un vrai support de dialogue ou de médiation pour aborder les questions de la grossesse et de ses conséquences. Hip Hip Hippolyte de Alain Cadu, autre production de chez Écriturial. Alain Cadu, c'est un professeur d'anglais et speaker officiel des Highland Games en France. Il s'agit d'un recueil de nouvelles policières. Un commissaire de police, Hippolyte Durieux, lui, il est vraiment proche cousin de Berrurier, élucide des crimes plus loufoques les uns que les autres. Un joueur de cornemuse écossais, la gorge transpercée par un des tuyaux de son instrument, sur le gouas. Vous savez, le gouas, la liaison entre Noirmoutier et le continent quand on veut y aller à pied. Un juge au son en longueur au championnat d'Europe d'athlétisme de Berlin en 2018, assassiné avec un javelot. Un participant aux Highland Games du 2019 à Bressuire, je vous le dis, à Bressuire, retrouvé écrasé par un tronc de mélèze. Il y a des jeux de mots « en veux-tu, en voilà », ça ressemble au texte des spécialistes du stand-up, mais je n'ai jamais trop aimé San Antonio, ni tous ces comiques à la mode. Réveille-toi, s'il te plaît, Lenny Bruce. Je suis donc mauvais juge. Alors à chacun de se faire son propre avis. Du côté des éditions Le Petit Pavé à Saint-Mathurin-sur-Loire, on nous propose un polar, La Complainte des Indigents de Yves Scholl. Un sans-abri est sauvagement assassiné dans un square de la ville de Nantes. Adhémar Timon, ancien commissaire de Nantes à la retraite, va venir épauler le jeune policier chargé de l'enquête. Il va user d'un stratagème pour approcher les conditions de vie des sans-abri et ainsi démasquer l'assassin. L'auteur met en scène dans ce roman la chorale Au clair de la rue, créée il y a une dizaine d'années par un SDF et un ingénieur à la retraite. Il y en a des gens qui s'engagent. On nous propose aussi, chez Le Petit Pavé, pour cette fin d'année, une biographie de Jacques Audiberti, un auteur pour le moins prolifique, mais surtout bien oublié aujourd'hui. Avec Saint-Léger Édition, on est dans les publications des sociétés savantes. Là, c'est du lourd, c'est du sérieux et documenté. Pas moins de 7 publications pour cet automne. D'âge en âge de Nicole Morel, l'autobiographie d'une écrivaine musicienne qui a quand même 5 CD de piano ou d'orgue à son actif, ayant eu pour professeur Maurice Duruflet, s'il vous plaît, elle a restauré avec son mari le château de Chantrenay. C'est une vie vraiment bien remplie. Autre livre, En avant la République, l'histoire de 16 maires d'Angers de 1870 à 1914, entre la grande et la petite histoire, ça s'est rédigé par l'atelier de recherche historique sur l'Anjou. Un livre pour enfants, Conte de Noël pour petits et grands, par Daniel Couturier. Devinez, quand est-ce que nous reviendrons sur ce livre ? Une petite Vendée en Artois, ça c'est un livre de Gérard Lesage. Le 25 août 1793, autour de Pernes en Artois, c'est dans le Pas-de-Calais, des jeunes refusent d'obéir à une énième réquisition militaire et se révoltent. Dites donc là, du côté de Cholet et de la Vendée, ça vous rappelle pas quelque chose, cette histoire ? Rapport au savoir est une étude réalisée par un collectif sous la direction de Catherine Nafty-Malherbe et Rakia Laroui. Un voyage de Napoléon, du 2 avril au 15 août 1808, de Alain Fougeret-Casamayou, livre écrit à partir de documents d'archives. On entre dans les détails de l'histoire, la grande, mais là vraiment dans les détails, et cette façon de la raconter permet finalement de comprendre comment vivaient les Français à cette époque. Et enfin, Bazin, inventeur angevin de Michel Vessier, certainement celui-là notre préféré. Cet Ernest Bazin, Il est de la famille de Hervé Bazin de Vipère au Point, surnommé l'inventeur perpétuel, est entre autres à l'origine de l'invention du bateau rouleur, digne des romans de Jules Verne, et je vous recommande d'aller voir les gravures de l'époque, mais aussi de tous les auteurs tant chéris par nos voisins d'antenne d'imaginaire. Après cette longue intervention, une pause musicale.
J'érige à l'intérieur une ville secrète où des ruisseaux sauvages traversent des tempêtes. Je frôle de mes seins des montagnes lointaines qui abritent au matin la douceur de ses mains. J'y sème certains soirs de nouvelles couleurs, cherchant dans ma mémoire de ses yeux la saveur. Dans les ruelles chaudes habitées de baisers, on vole des dimanches pour s'en énamourer. Si doux à mon oreille des sons de toi, j'avoue à mon sommeil quelques émois. Une barbare nue a poussé dans la terre en fourchant d'inconnus mes embrasures solaires. Je bâtis dans ma tête un jardin mystérieux où des graines farouches fascinent aussi les cieux. De l'écorce à la sève, mon cœur en cavalcade et la foudre me berce en épopée astrale. Si doux à mon oreille des sons de toi, j'avoue à mon sommeil quelques émois. Un géant dans mon cœur racontait l'invisible, de ses notes la transe s'accorder d'impossible. Si doux, j'avoue. Si doux. J'érige à l'intérieur une ville secrète où des ruisseaux sauvages traversent les tempêtes. Je frôle de mes seins des montagnes lointaines qui abritent au matin la douceur de ses mains. Ses boucles dans mes doigts se faufilent en averse, tissant dans mes ailleurs l'archer qui me traverse. Si doux à mon oreille des sons de toi, j'avoue à mon sommeil quelques émois.
Titi Zaro, une chanteuse qui a rencontré Loïc Lantoine, un extraordinaire chanteur du nord de la France. Vous êtes sur Radio G et vous écoutez Entre les pages. Alors, Inès, que se passe-t-il du côté du jeune public? Enfin, moi je crois que jeune public, tu connais pas trop, tu parles plutôt de Piu Piu.
Oui, en effet, la rentrée littéraire cette année, elle n'est pas chargée que pour les plus grands. Les petits, ils ont aussi du pain sur la planche. Cette année, on parlait des 5000 pages tout à l'heure, mais il y en a aussi pour les petits. Alors personnellement, moi, entre ma famille et mes heures de babysitting, j'ai la chance, que dis-je, le bonheur intense, d'avoir dans ma vie, du coup, un nombre non négligeable de petits piou-piou. Et ces pioupiou, laissez-moi vous le dire, ils n'ont pas une vie particulièrement facile. Entre gérer les matières classiques à l'école, comme les maths et le français, puis les ajouts modernes, comme l'histoire de l'art, ou encore les modules de classe européenne. Tout ça, alors qu'on a un compte Instagram à administrer, qu'on a des parties de Fortnite à gagner, et qu'on a une vie sociale à gérer, c'est pas simple, pas simple, pas simple.
Je te comprends.
Heureusement, cette année, pour la rentrée, Nathalie Slater nous livre un ouvrage merveilleux qui s'appelle « S'asseoir et ne rien faire » chez Pourpenser Éditions. C'est un très joli livre d'exercices et d'outils de gestion du stress, illustré par Joël Debrault, attention prononciation, Stafacher. Il apprend à se recentrer, à visualiser, et il encourage aussi la confiance en soi chez justement les petits. Sans être dramatique, je le dis, je pense que ce livre est un essentiel à placer dans toutes les bibliothèques de France, dans les salles d'attente des médecins et pourquoi pas dans les abris de bus scolaires. Moi, personnellement, quand je prends un livre pour enfants, quand je lis un livre pour enfants, la première question que je me pose toujours, c'est est-ce que l'intelligence de l'enfant est considérée et respectée dans cet ouvrage ? Alors, chez Nathalie Slater, elle est plus que considérée, elle est respectée et elle est encouragée même. Les exercices sont clairs, simples, et le texte n'est jamais condescendant. Il encourage des aspects très riches chez les enfants qui sont pourtant rarement mis en valeur, comme la spiritualité et l'introspection. J'ai trouvé dans ce livre beaucoup d'exercices que j'ai moi-même appris très tard, quand j'ai fait mon burn-out en master, et ces exercices-là m'auraient été très très utiles de la primaire à la fac, en passant par le lycée. Donc merci Nathalie de penser aux plus jeunes générations. Donc « S'asseoir et ne rien faire » n'est pas seulement un livre utile, c'est un outil potentiellement salvateur pour les enfants stressés. Un livre qui considère l'enfant comme un être complexe, dont les émotions sont valides. Alors, dans un style complètement différent, c'est vrai qu'on peut avoir d'autres livres, mais là ici on a les illustrations de Joël et le texte de Nathalie qui respirent la pédagogie et la compassion évidente. C'est un livre qui, je trouvais, plein d'amour, en plus de donner des bons conseils. Alors une fois qu'on est bien relaxé et bien recentré, on peut aller lire Le permis d'être un enfant de Martin Page chez Gallimard Jeunesse. En plus d'être drôle et bien écrit, je suis sûre que c'est un livre qui va plaire à beaucoup d'enfants, pour une raison très simple, encore une fois, c'est un livre qui ne prend pas les enfants pour des imbéciles. Dans un monde où la commission des enfants décide si le comportement des bambins est acceptable ou non, le héros du livre, Astro, risque de se faire retirer son permis de l'enfance pour avoir commis le crime terrible d'être un peu bizarre pour un enfant. Dans la digne ligne d'un Ponty ou d'un Dalle, le livre mélange une imagerie subtilement inquiétante avec des adultes qui sont quand même des forces presque magiques, très dangereuses, dans une histoire qui tourne autour de la réalité universelle très importante dans la vie de tous les enfants, qui est « les adultes sont des idiots ». Ça, c'est quelque chose que Martin a très bien compris dans son livre. Donc, on a ici des questions de liberté, des questions d'identité. Bref, pour moi, c'est un essentiel de la rentrée pour tous les petits-enfants qui n'ont pas l'impression, justement, de rentrer dans les cases de ce qu'est un enfant normal. C'est dans un autre style. Et là, du coup, on retourne chez Pourpenser Éditions. Nous avons « Dis, raconte comment ça marche » de Martine Lannibaille et Adélaïde Ronxin. Alors, dans ce livre, on a un projet qui est quand même très ambitieux, c'est d'ouvrir l'esprit des plus petits au questionnement philosophique. Non seulement sur la philosophie en tant que matière, mais la philosophie en tant que pratique. Le petit livre, il suit justement cette conversation, une conversation fictive entre une des légendes de la sociologie de France, qui est Edgar Morin, et un enfant. Du coup, en l'encourageant à poser des questions, à avoir une réflexion sur la philosophie, à avoir une réflexion sur le monde en général. Ce qui, bien sûr, est une très noble mission, illustrée ici de façon très talentueuse par Madame Roxin. Mais je pense qu'on peut dire que c'est peut-être un peu trop ambition. Parce que ce livre, qui est un hommage à Morin, donne parfois l'impression d'essayer de faire plus plaisir à ce dernier que aux petits lecteurs. Alors des textes qui sont bien sûr de qualité, un sujet qui est profond, un livre, encore une fois, qui fait la promotion d'une autre activité rarement encouragée chez les enfants, qui est de poser des questions. Mais par contre, mon seul reproche, je ne suis pas entièrement certaine que ce livre puisse être simplement sorti d'un rayon d'une bibliothèque municipale pour être lu par un enfant tout seul. Ou même par un enfant dont les parents ne sont pas entièrement familiers avec les notions abordées dans le livre. Différence avec Martin Page et Nathalie Slater entre faire confiance à l'intelligence d'un enfant et sous-estimer les besoins de pédagogie chez les jeunes lecteurs. Donc excellente lecture de rentrée quand même, mais pour celle-ci, lecture guidée obligatoire.
Oula, merci Inès. On citera aussi chez Pourpenser Éditions La balade de Belinda, quatre petits livres, printemps, été, automne, hiver, qui sont joliment illustrés de Joël Debrault, et La famille casserole, le tome 2 de Laetitia Pettini. Et comme nous ne nous privons de rien pour explorer le monde de la BD, c'est à Julien Védrenne de l'émission Calibre 58 que nous nous sommes adressés.
Petite fille, maman que mes strips, viens faire des bulles, viens faire des.
Comme vous devez l'avoir deviné, cette chronique va parler de bande dessinée. D'ailleurs, elle pourrait s'intituler Entre les bulles ou Entre les bulles angevines. Voici donc le procès de Gilles Doré par Jean Pleyer et Négib, une BD de chez Casterman. Autrement dit, une nouvelle aventure de Gênes. Alors, pour faire simple, Gênes, c'est Alix. Alix étant l'ami de Jules César et Gênes, celui de Gilles Doré. Tous les deux profitent de leur statut pour être les témoins actifs de l'histoire avec son fameux grand H. Sans nul doute, Jacques Martin, le dessinateur emblématique des deux séries, est fasciné par les personnages troubles. Et dans le cas de Gilles Doré, il y a matière. 17e volet, et sûrement l'un des derniers, le procès de Gilles Doré est avant tout une immersion dans les coulisses manipulatrices d'un État en reformation. On est après la guerre de Cent Ans. Jeanne d'Arc a été brûlée et Gilles Doré, l'un de ses compagnons d'armes, est devenu un maréchal de France bien encombrant pour le roi et ses alliés. L'histoire se déroule en 1440, pour partie à Nantes. Il ne sera malheureusement pas question de Champtocé-sur-Loire, l'une des castellanies du maréchal. Le scénario de Négib introduit le doute, de l'alchimie, une étrange statuette, des viols, des meurtres, de la folie, et surtout un Gilles de Ray trahi par les siens, mais épaulé vainement par son ami de toujours, Gênes. L'intrigue à deux voies, le procès et une quête ésotérique, est assez linéaire. Il est difficile de démembrer le vrai du faux. Faut dire aussi que Gilles de Ray, alias Barbe Bleue, est un personnage diaboliquement mythologique. Les auteurs font quand même le portrait d'un antéchrist qui fascine le peuple et qui finira sur le bûcher pour archémie. Alors, l'archémie, c'est l'analyse chimique des métaux. Autrement dit, c'est bien plus hérétique à l'époque que le viol et le meurtre d'enfants. Le dessin, hérité traîtreusement de la ligne claire d'Hergé, est très classique et fourmille de détails sur la vie au Moyen-Âge. C'est sûrement l'intérêt principal d'une bande dessinée trépidante mais pas vraiment haletante. Un récit crépusculaire pour un héros qui a vécu pleinement de sa folie au milieu de celle des autres hommes. Si vous avez profité des journées du patrimoine le week-end dernier pour vous aventurer à Champtocé-sur-Loire, vous avez pu apprécier les ruines d'un château qui cache encore ses bien tristes secrets. Le procès de Gilles Doré, c'est chez Casterman, et c'est une bande dessinée pour les adolescents en quête d'aventure. Mais avant tout, n'oubliez pas de lire les autres épisodes.
Et voilà, c'était la chronique de Julien Védrenne sur la BD. Et nous reviendrons avec lui d'ailleurs sur le troisième tome de Les Sansons et l'amateur de souffrance de Boris Beuzelin. Il était déjà venu présenter ce troisième tome lors de l'émission Imaginaire du 28 mai dernier. Continuons donc notre exploration du catalogue de la rentrée. Sur Radio G 101.5 dans Entre les pages, et nous partons du côté des éditions pneumatiques de Beaulieu-sur-Layon. C'est à nouveau une salve de publication qu'il tire pour le début du mois d'octobre avec pas moins de 5 titres. Les éditions pneumatiques, voilà bien des gens bizarres. Ils auraient tout à fait leur place dans un roman de steampunk ou dans une BD de Peter S. Keighton. En effet, le pneumatique de leur nom fait référence au mode d'envoi des courriers par air comprimé mis en place en 1866 à Paris. Imaginez, une lettre pouvait circuler par ce dispositif installé dans les égouts à près de 30 km/h. Merci Wikipédia. 5 titres, mais ce sont des petits malins. Chaque livre fait un maximum de 1500 mots et pèse 20 grammes. Le verso est prévu pour inscrire l'adresse de votre destinataire favori et pour y apposer un timbre. Plus que judicieux, vous ne trouvez pas ? Ce sont de très beaux petits livres à la couverture colorée. Pour ce mois d'octobre, vous retrouverez Le noyau de Myriam Nion, une petite fable sur la destinée d'un noyau de prune, L'espérance de Ahmed Caloise, un conte amoureux autour de l'abbatiale de Saint-Philbert de Grandlieu, Le temps, c'est de l'argent de Hervé Giraud, une fable où il est question, écoutez-moi bien, de selfie, de sieste et de start-up en 1500 mots. Non merci d'Edmond Rostand, un petit nouveau tien celui-là, une tirade extraite de Cyrano de Bergerac, brut de décoffrage, ça fonctionne toujours parfaitement. Et Juanita de Frank Pavlov. Je dois dire que c'est mon préféré. Mais avec Frank Pavlov, je ne suis pas objectif. D'ailleurs, les auditeurs qui n'ont pas lu Matin Brun sont priés de passer au bureau du proviseur avant la fin de l'émission. Juanita, c'est violent, saignant et diablement politique. 1500 mots d'une efficacité redoutable. Chez Inception Édition, deux nouveautés. Le troisième tome de la série Horizon de Lizzie Amaro et puis À Gravel ou L'Envers du Temps de Maxime Herbeau, docteur en littérature américaine contemporaine, s'il vous plaît. Une histoire fantastique dans laquelle il est donné aux habitants d'un territoire imaginaire de revivre leur passé grâce à trois tickets délivrés par l'Alecton, le train qui remonte le temps. L'histoire peut sembler compliquée parce qu'elle entremêle plusieurs récits. L'histoire de Julien Gravel, à qui il est donné la chance de faire ses voyages, le texte d'un roman de l'auteur préféré de Julien, le carnet de voyage d'Octave, qui a exploré le territoire que Julien a visité dans sa jeunesse. Mais l'écriture est fluide, et une fois qu'on a accepté l'alternance des récits, on se laisse porter par ce roman qui a, par certains aspects, des accents de la littérature symboliste du XIXe siècle. Lecture hautement recommandable, comme dirait Inès. Pays et terroir de Cholet publie Jaquette Blanchard, Meunière au pain de 1731 à 1804 de Monique Guérin, encore de l'histoire locale. Allons maintenant à Saint-Germain-des-Prés, enfin, pas à Paris, hein, chez les éditions, les artisans voyageurs qui sont à Saint-Germain-des-Prés, à côté d'Angers. Ils sont spécialistes des récits de voyage et aussi des carnets de voyageurs. Pour ce mois de septembre, ils rééditent les deux livres de Méas Pech-Métral, Cambodge, je me souviens, et Cambodge, mon pays, ma douleur. Il y a eu le film, souvenez-vous, Le voyage au bout de l'enfer de Michael Cimineau. Eh bien là, Méas Pech-Métral, elle l'a fait, le voyage au bout de l'enfer, sous le régime de Pol Pot, quand elle avait 10 ans. Le premier titre, Cambodge, je me souviens, est préfacé très intelligemment par Mireille Lemaresquier, journaliste à France Inter. S21, la machine de mort Khmer Rouge, le film de Ritipan, racontait cette terrifiante histoire. Méas Pech-Métral raconte doucement, simplement, à regard d'une enfant de 10 ans, et c'est glaçant. Il n'y a pas de description horrible, pas de pathos non plus, juste une voix qu'on entend, presque paisible. Le livre est bizarrement construit, on dirait des fragments, quelqu'un qui se souvient en direct. Et puis il y a des poèmes, à l'image de cette strophe. Ils ont tous les pouvoirs. Ils tuent n'importe quand. Ils ont jeté à l'eau un bébé de 3 jours et l'ont ensuite criblé de balles. Mes yeux ont vu. Une lecture très très salutaire parce que, qu'on le veuille ou non, nous avons l'obligation de ne jamais oublier. Enfin, pour terminer ce panorama sur les livres de la rentrée, nous ne pouvons oublier Petit frère de Alexandre Seurat, édité au Rouergue. Alexandre Seurat, enseignant à Cholet, trace sa route avec constance. Dans Petit frère, on imagine qu'il explore les failles familiales. Mais la rentrée, ce ne sont pas que les livres, il y a aussi les revues. Et il s'en publie quelques-unes de par chez nous de très bonnes factures. Tout d'abord, il y a Bout du Monde, de Angers. Son nouveau numéro d'octobre invite au grand voyage mythique en mettant l'Himalaya comme sujet central. On y parle entre autres de ces pays mythiques que sont le Mustang et le Zanskar, chers à Michel Pessel. Si vous ne connaissez pas cette revue, vous vous devez de réparer cela. La cohérence de la ligne éditoriale, la qualité des textes, l'iconographie, tout est au millimètre. La revue est portée par 3 bénévoles un peu fous, William Moxion, le rédacteur en chef, mais aussi Thierry Moxion et Jean-Marc Solou. Dire que cette revue est hautement recommandable est juste un euphémisme. Dissonance, de Mauges-sur-Loire, revue semestrielle, sortie du prochain numéro en octobre, sur le thème impur. Revue exigeante, qui publie des courts textes, l'iconographie de chaque numéro est confiée à un artiste invité. Pour ce numéro, c'est Corinne Le Lelèvrier qui sera à la tâche. Enfin, la revue Arfan, portée par l'association Nouvelle Ère d'Angers. Le prochain numéro est prévu à partir du 15 novembre. La revue publie des nouvelles. On y retrouve de grands noms de la littérature actuelle. La biographie des auteurs est présentée, ainsi que de brefs entretiens. Encore une revue de haut vol pour les amateurs de bonne littérature. Et last but not least, il faut citer en ligne la revue de la bibliothèque d'Angers. On y retrouve la foultitude de productions sur toutes les bibliothèques du réseau. Elle est très bien faite, riche et didactique.
Dans la basse Nantes, loin des beaux quartiers, sont des rues en pente comme un fin gosier. Les marins de Nantes, ceux du monde entier, y cherchaient galante le cœur délié pour une qui chante. Ou danse nu-pied. Dans la basse Nantes flânaient les gabiers, loin des rugissantes et des boucaniers. Pour 3 sous 50, si vous entriez dans quelques beuglantes, lors vous épousiez cette perle ardente où tout le collier. Dans la basse Nantes, sous le ciel rouillé, les hommes qui mentent ont tout oublié. La Loire n'enfante qu'un triste écolier. La voix qui le hante dit qu'il faut payer les orgueils de Nantes et des négriers. Dans la basse Nantes, la mer s'est noyée. Le vent seul tourmente les grues des chantiers. Sous le ciel de Nantes, aux bras humiliés, la mort est tournante comme un épervier. Et celui qui chante était capornier.
Merci à Michel Boutet pour cette jolie balade nantaise. Il se passe plein de choses dans le paysage local. Les 14 et 15 septembre dernier se tenait le festival À la marge. J'y suis allé promener mon micro. Nous sommes le samedi 14 septembre 2019. Je me rends au festival À la marge, à la Daguenière. Le temps est superbe. La route toute droite est ombragée par 2 rangées d'arbres. C'est le premier reportage de ma vie.
Votre destination se trouve sur la droite.
Je ne peux pas dire que je sois très serein. Bien, bonjour. Voilà, je me suis sur le lieu du festival À la marge. Le festival qui est donc organisé par l'association La Marge. Aujourd'hui, on est dans un endroit plutôt agréable, en pleine campagne, la Daguenière. Il fait un temps magnifiquement beau, donc pour un festival, que demander de plus? Bonjour.
Bonjour, moi je suis Flora.
Moi c'est Simon.
Oui, moi c'est Simon, cofondateur aussi.
Et donc, La Marge, c'est une association qui existe depuis quand?
Ça fait 6 ans que ça existe, c'est pour ça qu'on fête nos 5 ans aujourd'hui.
La marge, c'est quoi?
Ben nous, on a plutôt toujours dessiné dans la marge, même si Simon est professeur et qu'on a pas mal de profs dans l'équipe. C'était plutôt l'idée de jouer un peu sur les mots, forcément. Alors, la marge, c'est aussi la marginalité, peut-être, la marge du monde réel, parfois. Enfin, voilà, il y avait plein de choses à imaginer autour de ça. Et puis, forcément, quand on fait l'édition, il y avait le côté papier, ouais, qui est important pour nous.
La marge, ça fait des livres en carton, ça fait des livres faits main qui sont peinturlurés, décorés, sérigraphiés, reliés, tout ça dans notre atelier sur Angers.
Comment est né cet édit-là ?
Bah, la marge, au tout départ, en fait, c'était plutôt un projet que moi j'avais envie de monter. J'avais entendu parler d'une maison d'édition Cartoneras qui sont nées en Argentine au moment de la crise économique. J'avais vu un petit documentaire sur Arte, précisément, sur la toute première maison d'édition qui s'était montée comme ça. Et l'idée qu'ils avaient, c'était de faire des livres un peu de crise, justement. C'était de récupérer les cartons qui étaient recyclés par les gens précarisés par la crise économique et qui les revendaient en gros. Et donc c'est un artiste et un écrivain qui ont monté ça au départ, c'était Eloisa Cartonera. Donc c'était ancré dans le quartier populaire de La Boca à Buenos Aires. Et moi je suis partie voyager là-bas, prendre le temps de travailler un peu avec eux, essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Et c'est comme ça que le projet est né en fait, au retour du voyage, avec pas mal de copains qui étaient au chômage à ce moment-là. Et puis en discutant, on avait aussi, il y avait d'autres, ça a croisé d'autres envies en fait. Il y avait pas seulement le projet éditorial, il y avait l'idée d'un journal, il y avait l'idée d'un lieu collectif autogéré, de travailler un petit peu de manière horizontale. Et donc ça a donné lieu à ce que c'est aujourd'hui, mais avec vraiment, on était 7 au départ, c'était pas que nous. Hein. Et donc il y avait plein d'envies différentes, donc c'est la somme de ça. Aujourd'hui, c'est la marche, c'est aussi un lieu vivant, un lieu de rencontre, de discussion, de débat, et puis de création collective. Quoi. Tout est fait de manière participative. Quoi. Donc tous ceux qui franchissent la porte de l'atelier peuvent venir donner un coup de main, proposer un projet. Il y a aussi des expos, il y a aussi un petit bar associatif. Enfin, voilà, c'est un lieu vivant.
6 ans, anniversaire aujourd'hui, le choix de faire un festival, Simon, c'est...
En fait, c'est une idée qu'on a lancée en l'air et puis qu'on a validée en assemblée générale. Et on s'est dit, bon, on y va, on essaye et puis on verra ce que ça donne. Puis au final, ça rassemble tout ce qu'on fait dans notre atelier. Hein. Donc, on a les ateliers ouverts à tous. Là, on a des ateliers de sérigraphie, de sculpture à base de récup. On a toujours également proposé des expos. Donc là, on a fait l'expo collective. Et puis en fait, ce qu'on avait envie de rajouter également, c'était la musique. Donc on a rajouté des concerts puisqu'on a beaucoup de copains qui font de la musique également, donc c'était un peu un festival de copains, on a fait venir les éditeurs qui sont des copains, on fait venir aussi les musiciens qui sont des copains, les techniciens son qui sont des copains.
Et donc, la rentrée littéraire à la marge, c'est quoi ?
Ben nous, on est, donc comme je disais, il y a pas mal de profs, il y a aussi pas mal de mauvais élèves, on n'aime pas trop la rentrée. Donc en fait, le festival, c'était un bon moyen pour nous de la journée un peu. Ça nous fait une petite semaine de vacances de rap. Et du coup, on a un peu mis de côté tout le reste parce que c'est pas mal de boulot. Mais on a des livres en préparation pour après, parce que de toute façon, la rentrée littéraire, c'est saturé. On publie en moyenne 6 livres par an.
Notre concours de nouvelles tout le temps à la rentrée. Voilà. Et donc, comme on a fait le festival, on aura bien un ou deux mois de retard sur nos délibérations.
On fête nos anniversaires avec un an de retard et on fait à peu près tout dans ces délais-là.
Et vous devez extraire combien de nouvelles pour l'édition ?
5.
Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter bon courage. Je vais même vous libérer parce que je sais que vous êtes fort occupé. Je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir.
Merci, au revoir.
Dans ce petit coin de campagne, sous des arbres, sont installés pas mal de stands. Là, je vois le stand des éditions Les Beaux Désordres. Je vais continuer plus loin. Ici, c'est le stand de la maison de diffusion Sérendipite. Voilà, là, je vais me diriger vers la maison des éditions Pneumatiques. Bonjour, Nicolette Cook. Comment les textes arrivent aux éditions Pneumatiques ?
Alors, ils arrivent de différentes façons. C'est-à-dire qu'il y a quelques auteurs qui nous plaisent, donc on les contacte. Il y a aussi des textes qui nous arrivent simplement par voie d'Internet. Hein. Ou bien ils arrivent directement. Ou alors, il y a dans notre entourage des gens qui écrivent, dont on aime l'écriture, dont on aime le style, et on leur demande, voilà... Et voilà, c'est à peu près les seules... Oui, voilà, les trois façons, je pense que c'est les façons classiques hein, pour des éditeurs.
Donc je vois que Alors, on parle d'édition pneumatique, 1500 mots, petit livre, édition en région. Pourtant, je vois Frank Pavlov, je vois Egloff aussi dans le catalogue. Donc, vous avez quand même des auteurs de référence.
Il se trouve qu'on est basé, enfin, la maison d'édition est basée à Beaulieu-sur-Layon, mais on n'est pas du tout régionaliste. Hein, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les auteurs. Voilà, on a même un Belge, vous voyez, on a même Vincent Cuvelier. Et autrement, en effet, Egloff, autrement, on a Fournel, Pavlov, enfin voilà. Et il y a aussi des auteurs plus régionaux, mais là, on parle de petites nouvelles parce qu'elles sont petites en format, mais on a aussi, depuis l'an dernier, il y a deux recueils qui sont sortis, des recueils de nouvelles, hein, voilà, donc un format un petit peu plus gros, mais toujours postable. Hein, le principe est toujours le même. Mais quand on dit postable, c'est pas qu'on doit les poster. Hein, comme je dis souvent, on peut les garder dans sa bibliothèque. Hein, voilà. Donc là, on a deux recueils. Un recueil qui s'appelle Happy Valentine, de Sophie Verhoest. Et un recueil de Jacques Bertin, qui s'appelle Le Brocteur, nouvelles et textes courts. Voilà,
Donc le format, c'est un format qu'on peut poster, c'est-à-dire qu'on peut acheter une nouvelle, la franchir et l'envoyer à qui on veut. Les nouveautés là pour le mois de septembre ?
En fait, c'est en octobre hein, qu'elles vont sortir. Les dernières, c'était juin, voilà, il y en avait 5 en juin. On a Touriste hein, de Christian Casoni. On a La Réhabilitation de Nicolette Cook. Justement, Papa Clown, alors ça c'est... La petite histoire pour enfants qu'on a, de Vincent Cuvelier, qui habite en Belgique. Le sens du béret, c'est Frédéric Magnien. Alors là, c'est un petit peu particulier. À chaque fois, on a un dessin de Frédéric Magnien avec un aphorisme choisi par lui. Au dehors, silence, d'André Zémiri, qui fait partie de la collection poétique. En fait, là, on a André Zémiri, c'est quelqu'un qui habite l'Anjou. Ah.
Bien, bah, écoutez, je vous remercie.
Eh bien, merci.
Je laisse les éditions pneumatiques à la fraîcheur de l'ombre. L'ambiance est détendue, c'est bucolique. C'est vraiment agréable ce petit festival. Et je me dirige vers le stand d'une librairie angevine, les Nuits Bleues. Oula, à lire les titres, ça sent la révolution ici, il y a de la contestation dans l'air. Nous sommes donc à la librairie Les Nuits Bleues, avec le responsable de la librairie Les Nuits Bleues. Vous vous appelez comment ?
Je m'appelle Guillermo.
Et donc, Les Nuits Bleues, ça existe depuis quand ?
Alors, Les Nuits Bleues, c'est une librairie qui existe depuis une quinzaine d'années à peu près, qui au départ était une librairie itinérante, donc, c'est-à-dire que les deux créateurs avaient un stock de livres et ils se déplaçaient avec sur différents événements, de manifestations, etc. Et aujourd'hui, on est dans un local au 21 de la rue Maillet depuis un peu plus de 10 ans, depuis 11 ou 12 ans maintenant.
La librairie est spécialisée dans quoi ?
Alors, c'est une librairie militante, associative, donc ça veut dire que nous on est tous des bénévoles et c'est une librairie qui va pour nous le sens qu'on a c'est une librairie qui doit aider les mouvements sociaux en général pour discuter, réfléchir, approfondir certaines thématiques pour pouvoir faire avancer les idées que nous on porte qui sont des idées d'émancipation, d'égalité, de justice sociale, etc. qui sont des valeurs qui nous sont chères. Donc tout un tas de formats aussi, du livre, de la BD, on vend aussi un petit peu de disques, des revues, toutes les formes aussi, que ce soit du roman, de la littérature jeunesse, des essais philosophiques, des traités économiques, etc. Enfin, toute une variété de livres mais qui vont dans sens-là de la justice sociale, de l'émancipation, de l'égalité, etc.
Une librairie participative ?
Participative dans le sens oui, ou dans le sens où on est à l'écoute de ce que les gens veulent nous proposer. On travaille aussi, notamment au planning familial, avec qui on travaille sur les questions de littérature jeunesse, antisexiste, qui promeut l'égalité entre les filles et les garçons. Et nous, du coup, ça nous permet de proposer ça après aux personnes qui vont venir chercher des livres jeunesse à la librairie.
Une librairie donc associative, des bénévoles. Chez ces bénévoles, il y a des gens qui ont une formation de libraire, une compétence de libraire ?
Non, on a pas de compétences de libraire. Il y a un bibliothécaire, mais on s'est formé sur le tas au fil des ans. On a appris, mais aujourd'hui on a acquis un niveau qui nous permet d'être relativement sérieux dans le travail qu'on propose et de pas être. C'est pas parce qu'on est bénévole qu'on est dans l'amateurisme. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut avec nos faibles moyens, que ce soit humains et financiers, mais de le faire bien.
Sur la librairie, vous avez combien de titres disponibles ?
Je pense autour de 2000 titres.
Et s'il y avait un auteur de prédilection pour la librairie, ce serait qui ?
Du côté politique, ça va être un penseur comme Daniel Guérin qui a écrit beaucoup de choses, et notamment des choses sur la montée du fascisme, etc. Et puis du côté de la littérature, on est aussi très attaché à Jack London ou à Traven, par exemple. C'est des auteurs qui comptent pour nous.
Donc si je veux acheter Le Talon de Fer, je le trouverai.
Tout à fait. Dans sa dernière édition chez Libertalia qu'on a... Ouais.
Eh bien, écoutez, je vous remercie. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît.
Alors, je m'appelle Guillermo.
Merci.
Fin de mon reportage au festival à la marge. Je suis maintenant dans la salle du concert de la soirée pour vous donner une dernière sensation. Et moi, je ne vous le cache pas, je vais pouvoir enfin respirer.
Cette tannée d'origine, parfois j'envierai les martiens. Les soupçons pèsent depuis la cantine, même aujourd'hui, à 80, à ce maudit lieu de naissance, en AOC qu'on y voit bien. Serait-ce la faute à pas de chance, ou la vanité des humains ? Demain, au final de l'envoi, je touche le fond, personne ne vient. À ce triste mot de race qui ne vaut que pour les chiens. Rien sous la peau, rien sur ma face, il n'y a qu'un seul homme, un seul chemin. Faut dire à tous ces abrutis, tous la même fin, tous la même course, aux agités de la filiation, aux excités de la frontière. Il n'y a que nos filles, nos garçons, même espérance et même terre. Il y a, c'est bien celle de nos esprits. Envisageons un combat de la pensée sans répit. À cette tannée d'origine qu'il faudrait oublier demain. Aux poésies que l'on dessine, à la compagnie des humains.
Radio G, 101.5, vous écoutez Entre les pages. Je vais continuer à vous faire visiter ma bibliothèque pour cette fin d'après-midi. J'ai sorti un tout petit livre à la couverture d'un jaune éclatant. Cela faisait bien longtemps que je ne l'avais pas feuilleté, mais cet extrait, pourtant écrit en 1950, correspond bien à la période actuelle. Nous en sommes à peu près là. La demande harcelante de grands écrivains fait que presque chaque nouveau venu a l'air de sortir d'une forcerie. Il se dope, il se travaille, il se fouille les côtes. Il veut être à la hauteur de ce qu'on attend de lui, à la hauteur de son époque. Le critique, lui, n'en veut pas démordre. Coûte que coûte, il découvrira, c'est sa mission, ce n'est pas une époque comme les autres. Chaque semaine, il lui faut quelque chose à jeter dans l'arène, à son de trompe. Un philosophe tahitien, un graffiti de bagnard, Rimbaud redivirus. On dirait parfois, au milieu de la fiesta rituelle et colorée qu'est devenue notre vie littéraire, un trompette affolé qui sonnerait tout par peur d'en passer. La sortie du taureau de course et celle du cheval du picador. Aussi voit-on trop souvent, en effet, la sortie d'un écrivain nouveau nous donner le spectacle pénible d'une rosse efflanquée essayant de soulever lugubrement sa croupe au milieu d'une pétarade théâtrale de foie de cirque. Rien à faire, un tour de piste suffit, il sent l'écurie comme pas un, il court maintenant à sa mangeoire. Il n'est plus bon qu'à radioter, à fourrer dans un jury littéraire où à son tour il couvra l'an prochain quelques nouveaux poulains aux jambes molles et aux dents longues. Puisque j'en suis au prix littéraire et avec l'extrême méfiance que l'on doit mettre à solliciter son intervention dans les lieux publics, je me permets de signaler à la police, qui réprime en principe les attentats à la pudeur, qu'il est temps de mettre un terme au spectacle glaçant d'écrivains dressés de naissance sur leur train arrière et que des sadiques appâtent aujourd'hui au coin des rues avec n'importe quoi. Une bouteille de vin, un camembert, comme ces bambins piaillants qu'on faisait jadis plonger dans le bassin de Saint-Nazaire, en y jetant une pièce de 20 sous enveloppée dans un bout de papier journal. Et cet extrait de La littérature à l'estomac de Julien Gracq. L'heure de la sortie va bientôt sonner. Je vous rappelle les prochaines manifestations. Les préférences du 25 au 29 septembre, c'est organisé par la Maison Julien Gracq. Toutes les informations sur le site Maison Julien Gracq. Le festival littéraire Terres à vin, Terres à lire, à Savenières. La fête du livre de la BD de Juvardeil, dimanche 29 septembre, organisée par l'association Festilibre. Le festival de la BD engagé du 10 au 13 octobre au Metz-sur-Èvre, à l'espace Léopold Sédar Saint-Gor. Et puis il faut rappeler la manifestation Voyage en science-fiction qui a lieu du 14 septembre au 31 octobre au J Place Saint-Bac. Exposition, conférences, tous les renseignements sur la direction de la jeunesse @ville.angers.fr.
Aujourd'hui, vous avez pu entendre Rouge Silence, chanté par François Marza, Si doux de Titi Zaro, extrait de l'album Poète de Zéroal, dans la basse de Nantes de Michel Boutet, extrait de l'album La Ballade de Jean-Guy Doucet, Tanné d'origine de Niobé, extrait du spectacle Social Dancing. Vous pouvez voir Niobé en première partie de Delgrès au Jardin Vert à Cholet le 29 novembre prochain. François Pernel emporte et le générique est de Tilassine, extrait de son dernier album The Road. La lecture faite par Luc est extraite de La littérature à l'estomac de Julien Gracq, écrit en 1950 et publié chez José Corti. L'émission est réécoutable et podcastable sur le site de Radio G. Vous retrouverez sur la page de l'émission toutes les références des livres qui ont été cités et tous les titres qui ont été diffusés. Vous pouvez envoyer vos impressions, vos informations, sur la boîte courriel entrelespages@laposte.net. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 9 octobre pour un nouvel épisode consacré cette fois au monde merveilleux de la littérature jeunesse. Et nous aurons des éclairages d'une spécialiste du genre, Florence Cazuli. Bonne soirée à tous sur Radio G.
Yeah, okay, let's go.
www.radio-g.fr.